RFI.
Le français, c'est pour moi l'une des langues les plus chic et c'est une distinction vraie. C'est l'opportunité dans la vie parce que tout le monde parle anglais. Et français, quand tu sais que c'est français, les gens commencent à étonner. Vraiment, tu sais c'est français, tu parles français, je dis ouais.
Le français, une langue chic. Pour notre seconde émission, nous sommes toujours à Erevan, capitale de l'Arménie, belle ville avec ses grandes avenues, ses bâtiments aux couleurs ocre, beige ou rose, ville verte aussi où il fait bon flâner le long des rues, un peu d'Orient, beaucoup d'Occident et une architecture rectiligne qui rappelle le passé soviétique du pays. Dans cette ville donc où l'on parle arménien, russe et anglais, va se dérouler le 17e sommet de la francophonie. Ainsi le veut la diplomatie, mais il y a bien sûr une histoire du français en Arménie et pour preuve, nous sommes aujourd'hui à l'École française en présence de son directeur Martin Becker. Bonjour.
Bonjour.
Merci de nous accueillir. Nous sommes alors un tout petit peu à la périphérie de la ville, dans un lieu très étonnant parce qu'on est dans une zone industrielle.
Oui, oui, tout à fait. Oui, c'est une friche industrielle. Exactement, c'était les minoteries du Coca, c'est-à-dire c'était l'endroit où se fabriquait la farine qui était réexportée, on va dire, dans l'univers, dans le monde soviétique à l'époque. Avec du blé qui arrivait un peu partout, y compris du sud de l'Ukraine et des régions céréalières de l'Union soviétique.
Mais
et
quelle idée de faire une école ici ?
Alors, oui, c'est une drôle d'idée, effectivement.
Ouais, quand même.
Alors, bon, déjà, moi, ça ne me choque pas tellement l'idée de réinvestir des friches industrielles parce que on le fait ailleurs en Europe, dans les grandes villes, c'est même devenu un grand classique maintenant. On a dépassé ce stade-là. Mais pour nous, en Arménie, c'était assez choquant, effectivement, vous avez raison. Parce que on s'est retrouvé dans une configuration. Il était difficile de trouver des grands espaces tout près de la ville, et on avait cet endroit, mais qui est quand même assez grand, 2000 mètres carrés, qu'on loue, pas très cher aussi.
24 salles de classe, avec un dortoir, avec une cantine, une bibliothèque.
Voilà.
Tout y est en fait.
Une grande cour de récréation et des silos. Un environnement post-industriel, post-soviétique, qui est très marqué. Voilà.
Nous sommes donc dans la bibliothèque de cette école française. Alors il y a les livres de la bibliothèque verte et rose, mais il y a aussi Corneille, Stendhal, un des livres de Jean Mallory, le dernier roi de Tulé, oui. Puisque en fait cette école forme de la maternelle au baccalauréat, donc se côtoient des élèves de 3 ans, 4 ans et aussi des plus grands de 18 ans. Et nous sommes dans cette bibliothèque de l'école française avec un autre invité. C'est pour poursuivre le cycle d'apprentissage, en fait, le recteur de l'UFAR, Jean-Marc Laveste. Bonjour.
Bonjour à tous nos auditeurs.
L'UFAR, c'est-à-dire l'Université française en Arménie, qui est un cas, il faut le dire, assez unique, au moins dans le Caucase.
Alors, l'université française en Arménie, effectivement, est un petit peu une université singulière au sens où elle est française, mais le français n'est pas obligatoire pour y rentrer.
Damned, j'ai envie de dire, en français dans le texte.
Et en fait, on en fait un modèle un petit peu particulier, et donc en fait, on va utiliser le fait que les premiers niveaux universitaires sont sur 4 ans ici, issus du système soviétique, pour à la fois passer les compétences professionnelles de ces étudiants en droit, en gestion, en marketing, mais aussi leur demander de faire un effort important sur les langues et de valider un niveau B1 puis B2 en français, donc d'être parfaitement bilingue à l'issue de la licence.
Donc on rentre, on ne sait pas un mot de français, on sort, on est pratiquement bilingue.
Ah, on est bien bilingue puisque une partie de nos étudiants partent en France faire des stages au bout de 4 ans. 400 étudiants ont été mis à disposition de la francophonie pour faire la liaison francophone entre la population qui arrive et la population locale. Donc oui, bilingue totalement.
Alors pour vous taquiner un peu, j'ai en préparant cette émission demandé votre bio et je l'ai eu en anglais.
Alors vous avez une bio en anglais parce que c'était la dernière qui était disponible, mais à une époque où l'anglais devient la norme, et on l'écoutait dans le petit générique d'entrée d'une de nos étudiantes, le français fait la différence. Et c'est en ça aussi que l'apprentissage du français, la maîtrise du français devient quelque chose d'excessivement recherché dans cet endroit-là du monde.
Alors avant de parler des enseignements aussi bien de l'école française que de l'UFAR, j'aimerais qu'on fasse un tout petit point sur la francophonie en Arménie, parce qu'elle est très minoritaire. Sur les 3 millions d'Arméniens qui vivent dans ce pays, c'est quoi? C'est moins d'1% qui est francophone. C'est bien ça,
oui,
Martin Becker?
Oui, c'est à peu près ça, oui. Je ne sais pas si on a vraiment la mesure exacte, les chiffres exacts l'usage du français en Arménie et le nombre de francophones. En tout cas, c'est vrai, c'est minoritaire. Mais c'est en train de changer. Les choses sont en train de changer.
Mais dans les familles, on parle quoi? On parle arménien, russe, de plus en plus arménien, un peu moins russe?
Alors les Arméniens sont quasiment tous bilingues. Ils sont donc, pour des raisons historiques, arménien, ils pratiquent l'arménien bien entendu, et le russe aussi.
Oui, parce que finalement, l'indépendance à 25 ans à peu près.
Voilà. Et il y a aussi, c'est lié aussi à l'histoire du pays, parce qu'ici on est dans une partie de l'Arménie, et le monde, enfin dire russophone arménien, avait commencé déjà il y a longtemps, à la fin du XVIIIe siècle, avec les premières invasions, enfin en tout cas de l'empire des tsars, des russes qui étaient venus, qui étaient dans cette partie-là de l'Arménie. Et l'autre partie de l'Arménie, ce qu'on appelle l'Arménie occidentale, c'était d'autres formations aussi. C'était, on parlait évidemment le turc, et les enfants allaient étudier à Istanbul, puis après l'Europe, Berlin, Londres, etc. Alors qu'ici, les gens partaient pour continuer leurs études en Russie.
Mais parler français reste donc encore assez rare, même si ça change un peu. Vous êtes d'accord, Jean-Marc Laveste?
Moi, je suis tout à fait d'accord sur cette proposition. Je dirais qu'il n'y a pas deux, mais presque trois langues qui sont parlées naturellement. Il y a l'arménien, le russe et l'anglais, qui devient, comme dans tous les pays sur la planète, une norme. Mais à côté de ça, j'ai toujours été, en tout cas, fasciné, depuis que je suis ici, pourtant avoir vu beaucoup d'étudiants, sur la capacité de ces étudiants à intégrer des nouveaux vecteurs linguistiques. Parce qu'en fait, ils parlent souvent entre 4 et 5 langues ici. Et donc, ce petit pays qui, forcément, pour discuter avec les autres, a dû développer des capacités de pouvoir intégrer et avoir tous ces vecteurs linguistiques, c'est une véritable, en tout cas, opportunité pour nos étudiants à l'université. Je leur dis, votre richesse, elle est dans les langues que vous parlez.
Alors, sans forcément parler français, il y a en tout cas une attention portée à la France ou à la francophonie, mais peut-être plus à la France qu'à la francophonie quand même, parce que tout le continent africain est un peu peut-être oublié dans l'imaginaire arménien. Hier, une de nos invitées de l'émission nous rappelait que le français était la première langue ressource pour les traductions littéraires. Et puis je pense qu'il y a Aznavour, on en entend encore tous les jours, il y a Aznavour qui a été un grand professeur de français, non? Pour tous les Arméniens ou une partie des Arméniens.
J'ai été stupéfait, on l'échangeait ensemble il y a très peu de temps, par la profondeur de ce que Aznavour représente, et beaucoup plus que je ne le pensais. Quand on a appris son décès, dans l'université française, on a 75% de filles, et on voyait une tristesse profonde, des larmes d'une grande sincérité. Et je pense qu'Aznavour représentait plus qu'un chanteur, il représentait une projection sur l'extérieur, une porte ouverte de l'Arménie à une dimension totalement internationale. Il représentait une réussite, il présentait une abnégation au travail, et je crois que chaque Arménien se l'était approprié ou se l'est approprié de façon assez profonde, et effectivement, je pense que nous étions face à beaucoup de tristesse.
Alors, en ce 9 octobre, c'est un autre chanteur qu'on peut rendre hommage, grand auteur lui aussi, c'est Jacques Brel, qui disparaissait il y a 40 ans, très exactement, et je suis sûr que toutes les paroles vont vous revenir en écoutant Lilith Bleyan, qui est une jeune chanteuse arménienne, qui a décidé de traduire le répertoire français avec notamment Adamo, Barbara et Brel.
Երբեք պետք է մորանալ ժամանակն անցած ամեն ամեն բան
հարանց գտնելու գետ մի պատասխան, այն ժամեր ինչպես հարցերի տարապ, լուր կրակահերց սրտին խնդության, չթողնես երբեք, չթողնես երբեք, չթողնես երբեք. Լինում է հաճախ նորից էժ այդ կում հրաբուխը հին, ոշտվում էժ ձեր ու դաշտեժ ներված, ավելի հարուստ բերշկ են նվիրում, կան մի մեմ ապրի, իսկ երբ երեկոն երկինքն է այրում, ասես հարսանիք սևի կարմրի. Չթողնես երբեք, չթողնես երբեք, չթողնես երբեք.
Lilith Bleyan, ne me quitte pas pour De Vive Voix sur RFI, une émission aujourd'hui consacrée à l'apprentissage du français en Arménie. Alors, nous sommes donc dans l'école française, mais ici nous sommes à Yerevan, c'est pour ce sommet de la francophonie. Et l'UFAR a un rôle important à jouer dans ce sommet, parce que si les délégations peuvent avoir le sentiment qu'il y a beaucoup de francophones, c'est parce que ce sont tous des étudiants de l'UFAR, n'est-ce pas Jean-Marc Laveste?
Alors, je ne vais pas dire tous et toutes, mais je vais dire 90%. Non, il existe en Arménie au moins deux grandes autres universités, l'université d'État et l'université de Brusov, dans lequel on trouve des formations plutôt de linguistes, donc auquel cas, bien entendu, ils parlent français.
Donc plutôt sinon, des littéraires.
Oui, plutôt des littéraires. Et par contre, sinon, le gros des forces qui arrivent chaque année sur le marché du travail arménien en maîtrisant cette langue française sort de cette université, oui, de l'université française en Arménie.
Alors, parmi vos étudiantes, il y a cette jeune femme qui a servi d'interprète au compositeur Michel Legrand, elle en est très très fière, et qui va accompagner la délégation de Nouvelle-Calédonie.
Je m'appelle Lucinée, j'étudie à l'université française, à la troisième année, donc j'ai 19 ans, j'étudie en gestion, mais j'ai beaucoup d'autres intérêts. Ma passion, c'est l'art, la peinture et aussi le français. Bien sûr, le français, c'est une langue très difficile. Il y a beaucoup d'exceptions et il y a les exceptions des exceptions. Cette langue me donne beaucoup d'opportunités parce que grâce à cette langue, je peux aussi, par exemple, je fais le bénévolat l'année dernière. J'ai participé à un forum d'affaires. J'étais traductrice et c'est grâce à la langue française que j'étais là. J'ai appris beaucoup de choses concernant l'économie, etc. Il n'y a pas beaucoup de gens qui parlent français. L'anglais, tout le monde le parle. Mais le français, c'est plus unique, plus exceptionnel. Et pour cela, c'est un avantage. Par exemple, dans les entreprises qui ont les relations avec l'Europe, la France, c'est un avantage.
Jean-Marc Laveste, en quoi c'est un avantage de parler français? Est-ce que cela veut dire que vos étudiants à l'UFAR réussissent mieux que les autres?
Il y a plusieurs phénomènes. Je pense que, bon, comme le dit cette étudiante, la norme est maintenant, tout le monde doit parler l'anglais, donc le fait de parler le français est effectivement quelque chose de différenciant. Mais pas tant dans la maîtrise de la langue. Ce dont je me suis aperçu au bout d'un certain nombre d'années, c'est que la maîtrise linguistique du français développe en vous, et la façon d'enseigner le français développe en vous des caractéristiques qui sont totalement différentes des autres. La plupart des établissements en Arménie sont quand même issus d'un système post-soviétique basé sur l'apprentissage et la reproduction intégrale de ce qui a été appris. Or, quand on prend un prisme d'observation un petit peu décalé, qu'on se pose la question de la façon dont les études sont faites, notamment en France, l'esprit de critique, l'esprit d'analyse, l'esprit de synthèse, qui sont à la fois véhiculés par la langue et par l'apprentissage dans cette langue, mode de pensée qui font que ces étudiants, je le dis souvent, sont pas plus brillants que les autres, mais ils sont différents des autres et se caractérisent par cette différence au moment de trouver du travail. Et en fait, ils sont très recherchés parce qu'ils abordent des problématiques de façon différente, avec une vision beaucoup plus large, une capacité de créativité, je trouve, plus importante que dans un schéma purement reproductif qu'on retrouve dans les systèmes d'enseignement classiques, en tout cas ceux qui sont ici dans les universités d'État.
Mais ils restent en Arménie ou ils partent ? Tellement ils ont été bien formés.
C'est une vraie question. C'est une vraie question. Quand je suis arrivé recteur il y a 3 ans, la question s'est posée. Et pour tordre le cou à cette question, j'ai vraiment fait une enquête d'insertion sur l'ensemble des alumni, donc des diplômés. On en a retrouvé plus de 92%. Il y en avait 1500 à l'époque. 90% des étudiants sont en Arménie. 10% sont partis. 5% en France, 5% aux États-Unis. C'est-à-dire que la mission première de cette université, qui est quand même d'apporter un soutien au développement de l'économie de l'Arménie, nous la réalisons. Et ces étudiants restent, s'installent, et dès lors qu'ils sont capables d'avoir un travail avec un niveau de rémunération très correct, peuvent et construisent leur vie ici. Ce qui pour moi est un vrai succès.
Quelles sont les disciplines enseignées à l'UFAR?
Alors, jusque pendant les 15 premières années, on a essentiellement été axé sur le tertiaire, c'est-à-dire sur le droit, la gestion, les finances, le marketing. Pourquoi ? Parce que le besoin de développement de l'économie avait besoin de ces compétences-là. Et là, on voit depuis maintenant 3 ans tout le secteur des nouvelles technologies qui se développe, mais vraiment activement en Arménie, avec des investisseurs privés qui arrivent et qui se mettent sur ces créneaux-là. Et donc, naturellement, on a accompagné ça par une nouvelle filière en informatique et en mathématiques appliquées, avec un vrai souci de travailler sur le niveau de maths. Si on veut, à un moment, que l'Arménie capture de la valeur ajoutée dans la prestation qu'elle va faire, elle doit consolider son niveau de mathématiques, qui était un niveau très très bon au moment de l'époque soviétique, puisque de nombreux mathématiciens venaient de cet endroit. Donc on est en train de remettre l'équivalent de ces classes préparatoires un peu françaises, de ces façons d'interrogation orale, de manière à pousser un niveau de mathématiques élevé pour toute une filière qui devra servir le secteur des nouvelles technologies.
Il faut dire que l'UFAR propose un enseignement qui va de la première année de licence jusqu'au doctorat.
Jusqu'au doctorat.
Pour à peu près 1000 élèves.
Ou un peu plus, 1100 élèves, oui, tout à fait.
Avec une dizaine de doctorants actuellement.
Actuellement, d'en avoir 12 ou 13. Et une croissance importante dessus, puisque les doctorants sont aussi un relais potentiel de nouveaux enseignants qui seront diplômés d'un doctorat français. Et donc, qui apporte aussi.
Parce que les diplômes sont reconnus, hein,
Bien sûr, oui. D'où on diplôme avec un partenaire Lyon 3 depuis 15 ans. Et un nouveau partenaire qui sera Toulouse, Paul Sabatier, pour la nouvelle filière de mathématiques.
Autre témoignage de l'un de vos étudiants.
Je m'appelle Talon, je suis né en Arménie. Alors, je connais la langue française il y a presque 10 ans. Je connais cette langue depuis à l'école. Pourquoi j'ai commencé à apprendre cette langue? D'abord, j'ai choisi l'UFAR parce que j'ai adoré la langue française. Et comme je n'aime pas les mathématiques, après j'ai choisi mon fac où je fais mes études maintenant. Je sais pas concrètement, je peux pas dire une raison principale pourquoi j'aime la langue française, parce que c'est une langue de l'amour, la langue de politique. C'est un grand plus dans ton CV quand tu écris qu'on connaît le français.
Et vous êtes entouré de francophones, votre famille parle français ?
Non, seulement moi.
À l'amour, donc, ce jeune étudiant rajoute la politique. C'est étonnant. Est-ce que les politiciens arméniens ont besoin de parler le français ou parlent le français ? Martin Becker.
Alors, ma connaissance, le français n'est pas très pratiqué dans le monde politique arménien. Enfin, je dis ça, mais il y avait quand même quelques ministres d'avant la révolution de velours qui parlait quand même français, il y en avait quelques-uns. Et puis là, notre nouveau premier ministre nous a vraiment étonnés, puisqu'il a fait un discours en français. Je pense qu'il a dû bien préparer. C'est une nouvelle langue pour lui, je pense. Il a peut-être étudié avant.
Je crois qu'il a étudié il y a très longtemps.
Voilà.
Tout le français lui est revenu.
Il est revenu. Voilà. Je pense qu'il a beaucoup travaillé, mais c'était vraiment très bien. On était très fiers et très honorés.
Alors, si l'on parle de vos deux institutions... L'une a été créée il y a une quinzaine d'années, c'est l'UFAR, l'école française il y a une dizaine d'années à peu près. Qu'est-ce qui a présidé à cette création de ces deux institutions qui finalement marchent pas main dans la main, mais créent un système éducatif assez logique en français?
Alors je vais répondre pour le côté de l'université. Et la création de l'université, elle a marqué son ADN. C'est d'abord des chambres de commerce et d'industrie, notamment les CCI lyonnaises, qui se sont souciées de la question de la formation et de l'éducation ici en Arménie, en ayant quelques échanges et relations avec des entreprises. Et rapidement, on s'est aperçu qu'il y avait nature à faire quelque chose de beaucoup plus institutionnel. Et je pense qu'il faut lui rendre hommage. C'est l'ambassadeur Henri Cuny qui a porter cette université contre vents et marées, qui a réussi à la positionner et a réussi à faire mettre un cadre intergouvernemental. Donc la base des entreprises qui travaillent et ce qui marque en fait le fait qu'on soit très professionnalisant. Je pense que ça vient aussi de cette construction qui est partie de ce monde-là.
Et pour vous, Martin Becker, sachant que l'école française, c'est une école privée.
Oui, alors c'est une école qui a un statut juridique de fondation, mais comme l'université aussi, c'est notre mode de représentation légale ici en Arménie. L'école, alors, c'était complètement dissociée de l'université. Elle a été créée suite... Il y avait une petite école maternelle qui existe depuis 17 ans et qui fonctionnait bien. Et puis après, les parents se sont dit, notamment des parents arméniens, c'est pas des Français, qui souhaitaient continuer. Et puis s'est créé comme ça une première classe, enfin deux classes. Et l'école est née de ça. Et puis après, il y a eu tout un parcours où on était séparés. Et puis on a reformé une entité, qui est l'école française Anatole France, qui existe maintenant, qui va de la toute petite section maternelle jusqu'en terminale.
Donc se côtoient dans la cour de récréation les terminales et les 3 ans.
Voilà,
enfin, presque.
Presque, voilà. Il y a quand même des jeux qui sont aménagés pour les...
C'est du vivre ensemble, voilà, si je reprends le slogan de l'OIF pour ce sommet de la francophonie. École Anatole France, pourquoi ce nom? Parce que franchement, plus personne ne lit cet auteur qui a quand même été prix Nobel en France.
Oui, alors c'est un auteur qui est effectivement un peu oublié. On l'a ressorti un peu de la poussière. Enfin, nous, on a beaucoup réfléchi sur le nom qu'on allait donner. On cherchait des gens qui avaient un lien entre les deux pays, bien entendu, pas forcément des Arméniens, mais on s'est allé chercher des personnages français, et on a trouvé Anatole France intéressant. Enfin, c'est une figure qui historiquement a beaucoup défendu la cause arménienne, notamment lors des massacres hamidiens. C'est une époque triste, l'époque ottomane, de la fin de l'Empire ottoman au 19e siècle. Il y a eu des massacres terribles, et il avait écrit il avait monté un journal avec Jaurès, avec Zola, enfin il y avait des personnages très importants pour défendre la cause arménienne à l'époque de ces massacres qui ont fait quand même plus de 200 000 morts, entre 200 000 et 300 000 morts à l'époque.
Et d'ailleurs, il y a un buste d'Anatole France dans les rues de Yerevan.
Oui, effectivement.
L'école française, combien? 240 élèves, c'est ça?
Oui, 235 actuellement.
235, oui, tous les ans un peu plus.
Cette année, très bonne surprise, 30% d'augmentation des effectifs.
Donc, qu'est-ce qui explique ça?
Alors, c'est encore un petit peu mystérieux, mais enfin, on a quand même quelques éléments pour répondre à tout ça. Petit à petit, l'école se fait connaître. On a aussi fait pas mal de marketing. On a aussi, je pense, un effet intéressant qui est celui des conséquences de la révolution de velours, avec certaines familles françaises de la diaspora qui reviennent maintenant en Arménie, mais tout ça est à analyser finement. Et puis surtout la grande, on a ouvert cette année une classe. On parlait tout à l'heure de la naissance de l'université et celle de l'école, mais maintenant c'est une idée qui est venue de mon ami Jean-Marc, de créer une classe qui serait une classe un cursus arménien préparatoire, en préparation à l'université française en Arménie, qui n'existait pas. Et donc on a 12 élèves qui sont venus se rajouter comme ça, c'est de façon on a créé vraiment ces classes préparatoires cette année.
De toute façon, c'est un lieu du plurilinguisme, puisque vous enseignez à la fois en français et en arménien, et en même temps on peut apprendre le chinois.
Voilà.
Alors, il y a beaucoup d'étudiants arméniens qui apprennent le chinois.
On en a 5 dans l'école. Hein.
Pas mal, quand même, par rapport à une autre école française.
Le français, c'est vraiment la langue de l'école. C'est la langue de communication à l'école, mais c'est aussi la langue de scolarisation, évidemment. C'est la langue pratiquée dans les cours. Et on a aussi, tous nos élèves ont des cours d'arménien, bon, ce qui est tout à fait normal. qui sont plus des cours de littérature et de civilisation après quand ils grandissent. L'anglais, bien entendu, ça c'est dans les écoles, ça fait partie du cursus obligatoire dans les écoles françaises. Et après se rajoutent les langues optionnelles qu'ils peuvent prendre, première langue, LV1, LV2, LV3. Et là on a un choix, on a du russe, de l'allemand, du chinois, de l'espagnol et de l'anglais, bien sûr.
Et est-ce que vous apprenez aux jeunes étudiants, aux jeunes collégiens ou lycéens de l'école française, le jeu d'échecs?
Oui, tout à fait. Oui.
Parce qu'il y a des échecs absolument partout dans la ville, des échiquiers géants, et sur le marché, alors là, c'est des milliers de jeux d'échecs qui sont vendus, et c'est une grande tradition arménienne.
C'est une grande tradition, c'est le pays des échecs, bien entendu, et donc c'est aussi pratiqué, et même en classe. C'est-à-dire que dans la classe de CM2 cette année, il y a une demi-heure d'échecs hebdomadaires. C'est pas beaucoup, mais c'est...
Et c'est comme ça qu'on fait des champions du monde.
Et c'est, oui, enfin, ils sont très forts aussi. On a quelques champions dans l'école. Hein.
On verra un peu plus tard pour les champions du monde. Alors j'ai été très intéressé en rencontrant quelques étudiants, notamment de l'UFAR, Jean-Marc Laveste, par ce témoignage. C'est un autre étudiant, alors qui lui vient de la diaspora, il vient de rentrer en Arménie pour suivre ses études.
Je m'appelle Cetrak Balian, j'ai 21 ans, je suis arménien de Jérusalem. J'ai été au lycée français de Jérusalem pendant toutes mes années scolaires. Et puis je suis allé à Lille pour étudier, pour continuer. Je suis aussi français parce que ma grand-mère, quand sa famille a fui le génocide, ils se sont installés en France, à Marseille, à Lyon. Donc j'ai eu la chance d'avoir la nationalité française. Maintenant je vis à Yerevan, je continue mes études à l'université française en Arménie ici, à l'UFAR. Je parle anglais aussi parfaitement, mais moi j'ai décidé de continuer mes études dans le système d'éducation français parce que pour moi c'est un des meilleurs systèmes du monde. Et quand j'ai appris qu'il y a une université française dans ma patrie, c'est-à-dire mon pays d'origine, je suis vite venu ici pour continuer mes études.
Vous voulez faire quoi ?
J'étudie éco-gestion spécialisée en marketing, mais je pense rentrer dans la politique. Et justement, le français dans la politique joue un très grand rôle, je pense.
Merci, monsieur le ministre de l'économie.
Oui, peut-être.
Et de la politique en Arménie ou en France ?
Mais justement, c'est la question. Ça peut être en Arménie, en France ou à Jérusalem. Je ne sais pas, mais... Surtout, je pense qu'avec les langues, avec cette richesse culturelle, je pense que c'est bien de rentrer dans la politique pour pouvoir rapprocher les différents points de vue et les différentes cultures.
Vous avez un futur Premier ministre, Jean-Marc Laveste, dans vos rangs ?
Je pense que j'ai un futur président dans les alumni. J'ai un étudiant que je suis depuis maintenant de nombreuses années, qui maintenant termine son cursus au Conseil de l'Europe, qui a toujours été et toujours souhaité être engagé en politique. Et quand j'ai vu la réaction des étudiants pendant les événements qu'on a eus sur la révolution de velours, je me suis dit qu'ils étaient des vrais citoyens engagés. Et quand on a un vrai citoyen engagé, ça veut dire que la dimension politique, elle est intégrée et il souhaite participer à cette chose-là. Et donc je suis intimement convaincu que nous aurons parmi nos futurs anciens diplômés une vraie cohorte qui sera engagée politiquement.
La révolution de velours, c'est bon signe aussi pour vos établissements, pour l'enseignement du français?
Alors pour moi, oui, c'est un très bon signe, bien sûr. Parce que je pense que derrière la révolution de velours, il y a une éthique, une lutte contre la corruption qui est actuellement très très forte et qui correspond évidemment aux valeurs que nous on défend à l'école et que les familles qui nous ont fait confiance et qui ont placé, en tout cas les petits de la maternelle jusqu'à la terminale ici dans cet établissement, pour eux ça compte énormément. Et donc voilà, je pense que c'est très important.
Jean-Marc Laveste.
J'ai eu beaucoup de remerciements des étudiants sur le rôle qu'avait eu l'université et le soutien qu'avait fait l'université au moment où ils étaient tous sur les barricades. Et je me dis que on leur a transmis des vraies valeurs et j'étais très fier de recevoir tous ces remerciements de ce que l'université avait pu leur apporter.
J'ai cru comprendre que quelques-uns de vos étudiants et étudiantes sont presque amoureux et amoureuse de vous, de toute façon. Merci beaucoup Jean-Marc Laveste, merci Martin Becker. Je renvoie les auditeurs vers vos sites respectifs ou sur celui de RFI pour nous écrire une seule adresse, de vive voix, tout attaché au pluriel, @rfi.fr. De vive voix, programmation Véronique Durand, Guillaume Ploquin à la réalisation. Demain, toujours à Erevan, nous parlerons de littérature. À demain.